ses 20 ans, le festival Meg Montréal t'invite à son party pour finir l'été en beauté. Pour ses 20 ans, le festival Meg Montréal t'invite à son party pour finir l'été en beauté. Du 30 août au 2 septembre, la ville grouvera au son d'artistes reconnus et de la relève, québécois et internationaux, avec Étienne de Crécy, The Avenue, Arnaud Robotini, Sizers, Clark's Bowling Club, Christine et bien d'autres. Soyez prêts pour une 20e édition pleine de fêtes et de découvertes.
Le OOMPH, le festival incontournable de la rentrée étudiante présenté par Desjardins 360D, revient pour une 8e édition du 5 au 8 septembre. Une programmation de feu t'attend cette année avec Ghostface Killah du Wu-Tang Clan, les Dead Obies, une soirée signée Ilsonic, La Fourmilière, Marigold et plusieurs autres. Découvre également la nouvelle zone Block Party de Pony avec ses installations d'art et soirées musicales qui promettent. Ah oui, et surtout, tout est gratuit. Viens célébrer la rentrée au festival OOMPH rue Saint-Denis au cœur du quartier latin. Pour plus d'infos, www.oomph.ca.
Eh, hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaînes musicales.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Pool Hip-Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Berthion et aujourd'hui, Pop 180, notre seconde exploration interspatiale, cette fois-ci dans l'univers de Star Trek The Next Generation. Et évidemment, vous l'aurez deviné qu'il n'y a aucune émission qui serait... aucune émission en orbite autour de cette thématique qui serait possible sans la présence de Roxane Janeway. Bonjour, number one.
Bonjour, Jim.
Comment ça va?
Ça va. On parle de Next Generation.
Oui.
Donc, ça va bien.
Tu parles de la télésérie à succès entre 1987 et 1994?
Absolument. Je parle de la télésérie qui a, en fait, fait connaître un peu plus notre très cher Sir Patrick Stewart, qui pensait, en fait, anecdote, qui a accepté le rôle en disant « Mais de toute façon, ça te fera pas plus qu'un an, je vais pouvoir revenir à Londres, continuer ma carrière de théâtre. » Ça a pas fonctionné comme il pensait.
Le pauvre,
mais au moins, il va reprendre son rôle très bientôt.
Dit-on.
Vraiment?
Dit-on. Ben, il l'a annoncé publiquement, là.
Ouais, moi, the proof is in the pudding. Je suis très sceptique dans notre nouveau climat de télévision. Je veux le voir pour le croire.
OK, mais il l'a annoncé publiquement. Est-ce que tu fais confiance à Sir Patrick Stewart?
Oui.
Bon, voilà.
Mais ce n'est pas lui que je mets en doute, c'est la télévision actuelle.
Oui. Je comprends ce que tu veux dire.
Je comprends.
Ah, je voulais aussi apporter une précision à ce que tu as dit. C'est pas notre deuxième émission, c'est notre quatrième.
Ben là.
Quatrième émission sur Star Trek. C'est horrible, hein? Déjà rendu à quatre.
Comment ça, c'est horrible? C'est génial.
Horrible.
c'est
moi qui insiste pour faire des émissions sur Star Trek non-stop, mais je suis contente parce qu'il y a d'autres gens qui viennent avec nous. Fait qu'au moins, c'est pas juste moi et toi toute seule qui se font des yeux pendant une heure.
Ça s'en vient. Catherine Côté, Riker avec ou sans barbe?
Là, on me pose les vraies questions.
Catherine, dis la vérité. Riker, toujours, peu importe la barbe.
Riker, toujours, peu importe la barbe et dépendamment du suit, avec plus d'épaulettes que moins, mettons.
Donc, avec barbe, plus épaulettes?
Avec barbe et beaucoup d'épaulettes.
Fait que ça, c'est comme saison 2, saison 3.
Oui.
Ouais.
Oui, c'est saison 3 hier qu'on regardait Kim Alley.
On a regardé la fin de la saison 3, là, Curious of Borg et tout.
Oui. Ouais. Okay. Ses épaulettes sont très présentes.
Et on a aussi Hélène Desbrés. Hélène Desbrés, est-ce que tu crois que Beverly Crusher a eu une instance sur la création de Dana Scully?
Potentiellement, c'est une nouvelle théorie que tu viens de trouver comme ça?
Je réfléchis à ça, puis je la vois sur la couverture de mon... Excusez,
son rousse, ouais. Son médecin.
Exactement, c'est deux docteurs russes rationnels qui remettent un peu en place les...
Arrête, t'es pas tant rationnel que ça, Beverly.
Non.
Quand ça a rapport avec Jean-Luc...
Jean-Luc.
On perd complètement le rationalisme.
Ça dépend, leur première rencontre à l'écran est assez...
C'est assez froide, c'est vrai.
Ouais.
Mais en fait, leur première rencontre a une espèce de undertone des ex qui se voient pour la première fois, là.
Ouais.
Et André-Philippe Lapointe, le costume Reading Rainbow de Wesley Crusher le gros pull à franges?
Les deux! C'est pas la question, je
vous dis. C'est une très bonne réponse, probablement les deux. J'ai fait une image en tête, là. Oui, les deux.
Les deux?
Les deux.
OK, merci, j'ai pu tester les micros avec les questions. toutes ces questions ont été recensées dans le magnifique blog Fashion It's So. Puisqu'on parle de Next Generation, il y a un blog qui se spécialise dans la recherche de la mode au sein même de cette télésérie-là. Je pense pas qu'ils font les autres. Fashion It's So.
Mais pourtant, ça aurait été pertinent pour Deep Space Nine.
Il y a beaucoup plus de changements de costume dans Next Gen. Parce que tu te rends compte, par exemple, des personnages comme Diana Troy portent très rarement deux fois le même costume.
D'ailleurs, Catherine la surnomme...
Madame Pyjama.
C'était pas Lady Pyjama?
Lady Pyjama.
Madame
Pyjama, c'est...
C'est vrai qu'elle a toujours l'air en pyjama one suit.
Oui.
Dans Fashion It's So, ils font une observation quand je vais le dire, vous ne pourrez plus jamais ne pas le voir.
Oui.
Je le vois tout le temps.
Qu'est-ce?
Cette idée qu'elle a continuellement, dans tous les costumes, toutes les itérations de costumes qu'elle a, elle a une flèche qui pointe vers ses organes génitaux.
Ah, c'est vrai.
Oh God.
Ben, c'est vraiment vrai.
Même quand elle porte l'uniforme officiel.
Oui. L'unitard. Comme qu'on appelle.
L'unitard.
Super, en tout cas. Mais le meilleur, c'était son saut pour faire de l'aérobie avec le Dr. Crusher.
Ah,
ça, c'était quand même assez...
Oui.
Ça faisait la flèche.
Ouais. C'est ça. Puis encore, c'est drôle parce que, pas en début d'émission, mais pendant qu'on se préparait, je voulais qu'on balance nos âges, puisqu'il y a un certain éveil sexuel qui est venu pour une génération autour de Star Trek. Fait que je suis certain si vous avez été pris par cette vague ou non.
C'est pas parce qu'on écoutait Star Trek que... Non. C'est pas notre âge. Wow, on recommence.
T'es capable.
Moi, j'ai écouté Star Trek très tard. Fait que ça peut fonctionner avec l'éveil sexuel. Parce que je l'ai pas regardé en même temps qu'il était diffusé, parce que ça aurait été un petit peu weird. Ben moi, je l'ai écouté plus tard, fait que ça fonctionne.
OK, fait que t'avais... OK.
On peut partager notre éveil sexuel, si tu veux.
Avec Star Trek, ben oui.
Voilà, qui n'est peut. Pas...
Je trouve pas que les couvertures sont vraiment un turn-off.
Ouais, ben c'est ça.
Les couvertures.
Les textiles dans Star Trek Next Generation, c'est comme le sommet des années 80, il y a des paillettes dans toutes.
Quand ils sont en fonction, oui, toi, t'as de l'air très inconfortable parce que tout le monde est un peu pogné, puis Picard n'irait pas leur placer son chandail.
Oui, oui.
Mais quand ils sont en leisure, quand ils sont en mode party...
Tout a l'air des robes de chambre!
Tout est fucking slick, là.
Oui, mais dans les cabines, tout ce qui est textile, c'est toujours comme du lamé or, du lamé argent, lamé sur des couleurs.
Ça a pas l'air inconfortable, effectivement, je suis d'accord là-dessus.
Ça a tout l'air des couvertures comme en feutrine, là, c'est pour garder vraiment au chaud, là, dans une situation d'urgence et de survie,
c'est
là. Ça a l'air de ça.
Plaqué avec une petite couche de métal, là.
Oui.
Vous êtes la meilleure tablée de l'histoire de l'émission. 180 épisodes pour arriver ici. C'est extraordinaire. Roxane, tu nous avais préparé une introduction?
Ben écoute, j'avais pas préparé d'introduction. Je voulais juste que... j'avais pas préparé d'introduction. Je voulais juste que, comme on fait dans nos autres émissions jusqu'à maintenant, qu'on introduise un peu comment la série s'intègre dans le canon ou dans la chronologie des séries. Donc... Star Trek The Next Generation arrive, mon Dieu, 20 ans après la fin de The Original Series, donc arrive en 87, si je ne me trompe
c'est
pas.
Ça.
Donc arrive en 87, Original Series a terminé en 69. Donc on passe des années 60 aux années 80, à la fois dans les thèmes, mais aussi dans la représentation des personnages. Hélène soulignait tantôt que même dans le premier épisode, on voit Diana Troy avec une mini-jupe et elle change rapidement au unitard. Mm-hmm. Qui marque clairement le passage des années 60 aux années 80. Digitiquement parlant, ça se passe 150 ans, je pense, après les événements de The Original Series. 100 ou 150.
Vraiment? Plus parce 100, que, ouais. Étrangement, là, ça va me permettre de showcaser le magnifique The Star Trek The Next Generation Companion. Il dit que c'est 78 ans.
Ben
à peu près un siècle.
Bones dans le premier épisode. Bones apparaît. De Forest Kelly est là. Absolument. Dans le premier, puis okay. Il y a 137 ans. J'ai écouté hier, c'est pour ça que j'ai.
Ah, mais voilà. Marqué.
Mais donc, il y a 137 ans, donc a priori, ça doit faire une centaine d'années.
Quand même longtemps.
D'années,
ouais, une centaine d'années, à peu près. On va dire 100 pour la bonne mesure.
78.
un siècle
contredit de gros oui, book.
Mais... 78 arrondi à la cinquantaine, c'est 100.
Je suis sûre que ça peut être révisé par les pairs, ton companion.
Est-ce que c'est peer-reviewed? On demande une révision par les pairs. Puis les pairs, c'est moi, Hélène.
Mais c'est parce que là, tout ce que je vais dire dans l'émission
vient
de ça. Non, mais
c'est pas grave. C'est de la fiction. Là. On peut tweaker un peu avec ça. tout ce que je voulais dire, c'est que on est passé du Enterprise A au Enterprise D et éventuellement un autre Enterprise, mais là, est-ce que j'ai le droit de spoiler les films? On a-tu le droit?
Ouais, on peut parler un peu des films quand même, correct. Je pense.
Fait que éventuellement, le Enterprise D ne sera plus et le Enterprise E va faire apparition. Et donc voilà, la série a 7 saisons. La première est pas super bonne. La dernière a des choses aberrantes. mais entre les deux, il y a de l'excellent contenu. Philosophique et autres. Et ça reste une des séries, je pense, les plus aimées des fans, sauf Jim, apparemment.
On la regarde bizarrement.
Ouais, puis ça. Lui, il me regarde même pas pendant que je fais des gros yeux. Mais c'est correct. T'as le droit.
Ouais.
et il y a le capitaine qui est considéré comme étant le meilleur capitaine par exemple. Bon,
selon vous deux?
Pas selon nous deux.
C'est scientifique.
Ben, on s'est consulté.
En fait, pour les gens qui ne le savent pas, vous pouvez aller écouter l'émission anniversaire 150e épisode de Pop en Stock où Catherine et moi avons fait une merveilleuse présentation qui analyse avec beaucoup de rigueur scientifique oui. qui est le meilleur capitaine.
Oui.
Et selon nos recherches, c'est Picard.
Oui.
Mais je veux juste souligner que pendant qu'on faisait notre présentation, il y a beaucoup de gens qui nous regardaient avec des yeux très très fâchés à chaque fois qu'on critiquait Picard. Je n'aimerais pas de nom, mais c'est des gens très connus dans le système Pop en Stock.
Ouais.
Ben non, weird, pas non. Comme préambule.
À chaque fois que je dis que Picard n'est pas parfait, je me fais toujours rabrouer un peu par des puristes qui pensent que Picard est comme l'incarnation du capitaine parfait. Ce que je ne nie pas, mais il y a place à l'amélioration. Puis là, on peut.
Non, c'est quand même. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y avait eu Kirk avant lui, puis après, il y a eu lui. Donc, c'est quand même un bon modèle de premier capitaine.
C'est un bon step-up, mettons.
C'est un vrai capitaine, quoi.
Genre.
Oui. c'est ça. C'est un bon changement, ça.
Mais moi, en le réécoutant hier, le début, j'ai écouté plusieurs épisodes des autres saisons régulièrement, mais pour revenir aux sources, Picard, au début, je l'ai trouvé particulièrement étrange. Mm. Il jouait d'une manière complètement décalée. Il est très, très robotique dans le premier épisode. Le premier plan est hallucinant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est juste Picard qui est dans l'ombre, qui est soudainement éclairé, puis il est complètement immobile, aucune émotion, puis s'avance vers la caméra, mais vraiment comme un androïde. Puis ça m'a vraiment fait penser, en fait, à la façon dont Phileas Fogg est décrit dans Le Tour du monde en 80 jours, vraiment comme l'homme-machine.
Hmm.
Puis, à force de travailler sur Data, sur qui on reviendra sans doute plus tard, j'ai fini par avoir l'impression que l'idée même de Star Trek Next Generation, c'était d'humaniser cet équipage-là qui était à la base très, très, très robotique.
Mm-hmm.
Ils sont. Puis, c'est pas seulement Picard, c'est le plus spectaculaire. Je pense qu'il est vraiment. Ses relations avec les autres personnages dans le premier épisode sont étranges.
La première fois
qu'il rencontre Riker, il lui adresse même pas la parole, il se retourne pas. Tout ce qu'il fait, c'est demander à quelqu'un de lui montrer la vidéo de ce qui s'est passé dans l'épisode avant, ce qui est assez étrange. Puis la prochaine scène qu'il y a avec Riker, c'est il raconte, il lui dit, je suis incapable d'interagir avec des enfants.
Ouais, il va falloir peur, en
que
fait.
Mais tu sais, c'est la première chose que tu dis à ton second.
Oui, c'est vraiment drôle.
Je suis incapable d'interagir avec des enfants. Il va falloir que tu m'aides pour que ça ait l'air que je suis capable. Oh. C'est même pas genre tu vas le faire à ma place. Il va falloir que tu me fasses bien paraître parce que je suis incapable de comprendre le concept d'enfance.
Ben, c'est ça, on a l'impression que c'est une phobie quasiment parce que justement, comme tu disais, il est très machine, très presque autant que Data par moment. Et justement, les enfants, c'est pas ça, c'est l'humanité, c'est le débordement, c'est plein de choses.
Je pense que la quête d'humanité, et c'est les deux ensemble qui la font, en fait. Ils découvrent ensemble ce qu'est l'humanité, puis il y a plein d'étapes dans la série où on va voir ça.
Puis en fait, je pense que même Data arrive à son humanité avant Picard, tu sais. Je pense qu'on le voit.
Picard en est conscient d'une certaine façon.
Oui, mais tu sais, on le voit vraiment. En fait, c'est drôle, on vient d'écouter le dernier épisode, puis la dernière scène, c'est le moment où Picard décide d'aller jouer au poker avec les membres de son équipage. Puis je pense qu'il y a vraiment juste à ce moment-là où il atteint un semblant d'humanité qui est réaliste ou en tout le moins à laquelle on croit parce qu'il est capable de s'intégrer avec d'autres gens comme d'une manière sociale.
De comprendre les codes sociaux.
Qui a l'air sincère.
Ouais, c'est ça. C'est complexe le poker, c'est que des codes sociaux.
Ouais. Même Wesley Crusher est capable de faire ça dans la troisième saison. Là, fait que, hein?
Mais lui, il est capable de faire des trucs très très rapidement aussi. Là. Ouais. Mais sinon, il y a d'autres enfants qui apparaissent, notamment le fils de Worf qui va aussi aider à l'humaniser et à passer par plein d'épreuves.
Ouais. Alexander, il m'énerve tellement.
Oui, mais il est bien en ce sens-là, je veux dire, t'as l'homme devoir absolu qui représente un peu l'imaginaire du Klingon que lui-même n'a pas tellement connu, donc il l'idéalise à fond. Et là, de l'enfant qui arrive et qui veut pas nécessairement être Klingon, qui se fout complètement de l'honneur.
C'est vrai.
Deep Space Nine par Alexander.
Oui.
J'ai l'impression qu'ils en sont venus là par opposition à la première série. Ils ont voulu tellement pas faire ce qu'ils avaient fait la première série, justement pour faire différent puis pour arriver dans les années 80.
Ben en fait, mais c'est dans la... Je veux vraiment pas t'interrompre parce que ce que tu déclares comme étant un instinct, c'est effectivement ça. En fait, il y a une... Le mission statement, quand ils font une refonte de Star Trek, ça allait jusqu'à il n'y aura pas des vieilles races.
Ouais.
Ils ont eu à se contredire un peu puis à un peu mettre ça...
Les Vulcains sont bien quand même.
Non, c'est ça, mais comme tu le vois dans la première saison, il y a seulement les Klingons qui reviennent, qui sont...
Les Romuléens à toute fin.
Les Romuléens, je pense que tu n'entends parler, mais si on parle du même épisode... Si les Klingons qui font en semblant que c'est les Romulans qu'ils ont attaqué sur un vaisseau Ferengi.
Non, je parle du tout dernier épisode de la première saison de Neutral Zone où ils disent qu'ils vont réapparaître et on a des contacts visuels avec. C'est à toute fin justement.
Okay,
ils reviennent pour probablement. Il va y avoir saison 2, il va y avoir plus d'action.
Moi, je veux juste dire que tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis une encyclopédie de Star Trek, mais je le suis pas du tout quand je m'assois avec vous ici. Là, comme vous avez une mémoire comme. C'est parfait.
Non, parce que je me rappelle pas du nom de cet épisode-là. Okay.
Non, j'ai pas une connaissance.
C'est une coche de
plus. C'est juste moi qui ai pris plein de notes parce que ça fait à peu près trois fois qu'on doit faire l'émission.
Puis
à chaque fois, j'écoute à peu près genre 10 épisodes pour préparer. Puis là, je vais faire OK, 10 nouveaux. Donc j'ai juste accumulé quelques trucs.
Mais est-ce que vous aimez Next Generation?
Ouais, moi
j'adore.
Moi j'adore, ouais.
Ouais. Jim?
Malgré ses défauts, là?
Ouais, ben enfin. Oui.
Oh, c'est peut-être la série. On élimine The Original Series parce qu'il savait pas vraiment ce qu'il faisait.
Il savait pas ce qu'il faisait.
Ben, je suis pas d'accord à l'éliminer, même s'il savait pas ce qu'il faisait.
Laissez-moi finir ce que je suis en train de dire. Au niveau narratif, l'univers était pas encore complètement forgé. Il faisait quelque chose de complètement nouveau, donc il savait pas vraiment comment explorer l'univers qu'il venait de créer. C'était un peu...
Je suis pas sûre qu'il créait un univers non plus.
Non. Tant, hein? En fait, Gene Roddenberry créait un univers à chaque épisode. Là. Il ajoutait des choses, puis il s'en foutait un petit peu. Mais avec Next Generation, je pense que c'est le moment où ils ont essayé de faire quelque chose de cohérent. Mm. Puis c'est un bon début, mais je pense que la culmination de cet univers-là, c'est avec Deep Space Nine, pardon, puis Voyager, pour moi. Ouais. Je m'excuse.
Mais c'est qu'en même temps, je vais juste exclure Deep Space Nine parce qu'il n'est pas vraiment en train de créer un univers. Deep Space Nine est tellement à l'extérieur. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'exploration.
C'est dans le monde de Star Trek qu'ils reprennent, tu sais, ils vont explorer les dimensions sociales, les dimensions religieuses. Donc, ça fait partie pour moi de l'univers de Star Trek.
Ah oui, je suis d'accord, mais je veux dire, ce que tu dis par rapport à. Tu sais, autant que, bon, effectivement, on joue la game de comme je trippe un peu moins sur Next Gen, les fleurs.
Tu joues la game.
Ben, non.
Moi, je joue pas de game, Jim.
Non, mais
c'est moi non plus.
Les fleurs que tu es en train d'envoyer à Deep Space Nine, je vais les prendre puis je vais les renvoyer à Next Gen parce que
ils ont quand même mes fleurs.
Non, je fais comme un.
Tu sais ce qui arrive quand tu tombes sur des fleurs?
Doves Cry.
Tu te fais condamner à mort. Puis après,
ah oui, deuxième ou troisième épisode?
C'est genre troisième épisode, ouais.
C'est vraiment tôt, en plus, c'est vraiment violent, je trouve.
C'est plutôt pour dire que la construction Next Generation, effectivement, est la consécration de l'univers de Star Trek. Tout part un peu de là, comme... C'est son Empire Strikes Back. T'sais, Empire Strikes Back, c'est le moment où on fait comme qu'on arrête de niaiser avec les faces de trompette puis les drones qui explosent. Puis on va comme dire qu'il y a quelque chose qui se passe ici.
Absolument.
Next Gen est vraiment ça. Oh, ensuite, wow. C'est ça, c'est tout le concept de la synthèse, l'antithèse. Deep Space Nine a besoin de Next Gen pour exister.
Mais on va leur donner... Oui, le premier épisode de Deep Space Nine, je veux dire... Et clairement, on l'établit clairement comme étant un spin-off de Next Gen avec, tu sais, Locutus of Borg, avec Picard, mais bon, on parlera de Deep Space Nine une autre fois, mais.
S'il vous plaît.
Mais, je veux dire, il y a des choses extraordinaires dans Next Generation, mais les choses extraordinaires dans Next Generation, c'est des épisodes singuliers pour moi, par exemple. The Measure of a Man, qui est un épisode absolument formidable, est un épisode singulier, alors que pour Deep Space Nine puis Voyager, c'est sur l'évolution des personnages, les arcs narratifs globaux des séries, c'est sur la manière dont, socialement, on interagit ensemble. Fait que, pour moi, je pense que c'est deux trucs complètement différents, mais The Next Generation est un préambule, je pense.
Moi, je te donnerais raison.
Juste une petite précision, par contre, il y a quand même beaucoup de part 2 épisodes qui arrivent, surtout à partir de la troisième saison, il y en a de plus en plus, même à l'intérieur.
Mais
c'est pas
même
finale,
que l'histoire de Locutus of Borg aurait pu être tellement plus exploitée. Là. C'est comme, j'ai l'impression qu'il arrive, c'est comme fin de la troisième, début de la quatrième. OK, on va faire 2-3 épisodes là-dessus, puis là, boum, OK, nice.
Non, c'est clair, mais ça donne au moins l'équivalent quasiment d'un petit film.
Ouais.
Quand même, ça permet d'aborder. C'est effectivement souvent très précipité. La fin, justement, de Locutus of Borg, je la trouve vraiment décevante. Ça aurait pu être plus long et beaucoup plus intéressant si c'était une série Netflix aujourd'hui.
Ouais.
Mais il arrive quand même à un développement qui est plus conséquent, je trouve, que ce qu'il y avait dans la première série d'Original.
Oui.
Mais il faut dire que, outre la place de cette série-là dans l'univers de Star Trek, il y a aussi sa place dans la télé en général. Elle arrive à un moment où ça n'existe pas vraiment encore, les feuilletons de science-fiction, les feuilletons. Ça existe un peu, mais bon, on est justement à l'époque où on est en train de construire ce que la télé va devenir.
Ouais.
Fait que forcément, juste, en fait, le fait d'avoir un mélange entre ces épisodes fermés-là et ces épisodes ouverts, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Donc, c'est sûr qu'il ne faut peut-être pas non plus vous chercher les standards qu'on a eus après, mais...
Bon, c'est clair.
Mais, ouais, mais je pense qu'il essayait des choses, puis... Mm-hmm. Juste le fait aussi de faire des... Souvent, les two-parters de fin de saison qui sont toujours des cliffhangers, ça aussi, ça a été repris beaucoup après, mais c'était assez nouveau.
Ouais, mais je pense que en fait avec Next Generation, c'est que le regard que moi j'y jette, c'est le regard de quelqu'un qui a écouté Star Trek pour le fun, mais aussi académiquement. C'est le regard rétrospectif que j'y jette. Par contre, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont dire que Next Generation est leur série préférée parce qu'il y a un facteur nostalgique. Genre, leurs parents l'écoutaient, puis ils l'écoutaient avec leurs parents.
Puis moi, c'est mon cas aussi.
Exactement. Fait que je pense que beaucoup de gens ont ce feeling-là de c'est quelque chose avec quoi ils ont grandi. C'est pour eux, ça représente leur enfance, tu sais. Alors que pour moi, c'est pas ça. Fait que peut-être que j'ai justement ce regard-là.
Ben, c'est là où je trouve ton observation est d'une brillance extrêmement précise parce que c'est là où je deviens hésitant par rapport à Next Generation. Parce qu'effectivement, je suis, comme Hélène, comme Catherine, dans ce canevas-là, que c'est la télésérie que j'ai écoutée avec ma mère. C'est de là que ma mère m'a amené à la science-fiction.
Mm-hmm.
Mais que depuis le temps, je les ai réécoutés. Puis le souvenir de... le souvenir du divan, de l'odeur du bois, de la chaleur maternelle puis de l'exploration spatiale, ne mesure pas l'expérience adulte que je suis en train d'écouter, puis je fais comme « Ah ouais, c'était ça. Ah, shit.
Ouais. »
Ah, ça peut être... Fait que je trouve que ton observation est vraiment, vraiment précise par rapport à ça, puis c'est pas... Ça peut aller en faveur de la télésérie, comme ça peut aller en la défaveur. Il y a des gens qui peuvent en sortir avec un souvenir extrêmement sépia, parce qu'ils l'ont pas réécouté. C'est comme remettre le pied dans ton école primaire. Il y a des moments où tu fais comme si je m'attendais pas que les cases soient si petites que ça. Et qu'est-ce que je fais s'il faut que j'aille aux toilettes?
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi que c'est des épisodes qui sont géniaux. En fait, sur le plan académique, là, sur le plan du contenu, de la structure, la série au complet n'est pas intéressante à étudier.
Non.
Ce qui est intéressant, tu as raison, c'est certains épisodes qui réussissent à faire des bijoux de narration, qui abordent des sujets qui jamais auraient été abordés à la télévision, dans les formes qui ont... Tu sais, tu parlais de Measure of a Man, c'est un procès pendant une heure.
Il y en a beaucoup, en plus, des procès.
Il y en a beaucoup, en fait, oui.
Whitney en a un aussi, qui est un très bon épisode.
Ben, Data en a deux, en fait, parce qu'il y a aussi avec sa fille.
Exactement.
Donc, il y a cette idée-là du procès, mais je pense que c'est pas gratuit non plus. C'est pas juste un ressort narratif, c'est aussi parce que Star Trek parle d'humanisme, puis il parle des lois, il parle de l'idéal humaniste qui passe par le juridique.
Puis aussi, ça commence et ça finit comme ça, s'ouvre sur un procès, ça se finit sur un procès dans une très belle boucle.
Ben, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, littéralement, Next Generation est l'histoire du procès de l'humanité.
Absolument.
Je veux dire, c'est assez clairement, comme tu dis, l'idéal de l'humanisme passe par le juridique. Ben, c'est clairement explicité dans Next Generation.
Ouais, à travers Q.
À travers Q, qui est pas toujours
le meilleur juge.
Le meilleur juge. mais quand même, tu sais, The Measure of a Man. Il est très intéressant, Q. Mais The Measure of a Man, pour moi, est comme l'épisode que je conseille aux gens s'ils veulent commencer à écouter Star Trek. Parce que je suis comme, si vous passez pas à travers The Measure of a Man, vous devriez pas écouter Star Trek.
Ouais,
parce que c'est un épisode dans lequel il se passe virtuellement rien.
Non, rien.
Mais c'est l'essence parfaite de ce qu'est Star Trek. C'est-à-dire, et passer 45 minutes à regarder des gens parler de c'est quoi l'être, puis c'est quoi exister, puis est-ce que l'homme existe.
Puis qu'est-ce que l'humain?
C'est correct. T'sais?
Qu'est-ce que la sentience? Ouais.
Fait que pour moi, c'est comme, c'est l'épisode que je force les gens à écouter quand ils commencent à écouter.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est l'essence de Star Trek, mais je considère que du monde peut aimer Star Trek Next Generation sans aimer cet épisode-là, parce que je trouve qu'il y a tellement de trucs différents dans Next Generation que, mettons, tu peux aimer plus que ce qui est combat spatial. Là, tu vas énormément t'amuser dans la finale, la saison 3, avec les Borg. Donc, tu peux aller chercher différentes réflexions.
C'est quoi, est-ce que ça veut dire que t'aimes pas The Measure of a Man?
Non, c'est pas mon épisode préféré, mais je considère qu'il y a quand même autre chose ailleurs.
Il y avait du jugement dans mes dions.
Oui, je l'ai énormément vu, mais je veux dire, de toute façon, c'est un épisode merveilleux, puis c'est généralement celui qu'on conseille. C'est le premier que j'ai écouté de Next Generation, et c'est là que j'ai fait, yeah, je vais aller dans Next Generation. Et là, tu commences les oreilles, tu fais, ok, oui, c'est pas juste ça non plus.
Yeah, ouais.
Mais ça passe aussi beaucoup, tu sais, l'humanisme passe par le juridique, mais passe aussi par l'histoire, puis par la fiction. Tu sais, on a, c'est probablement la seule série de Star Trek où il y a autant d'incursions du passé, où eux-mêmes vont à d'autres époques, où la fiction envahit. Donc, la tradition littéralement,
oui.
Ouais, littéralement, c'est pas tout le temps les meilleurs épisodes, mais,
non, c'est vrai.
Mais quand même, il y a quelque chose de très... voici les livres que je lis. Ça, par hasard, c'est toujours des livres du 18e, 19e siècle.
Ça tombe bien, c'est pas quelque chose
de
21e, c'est bien.
C'est typique en science-fiction, hein, il y a toujours un immense trou. Là. Tu sais, ça se passe en 2300, mais il s'est jamais rien passé pendant les 300 ans entre le moment de la diffusion puis le moment diégétique. Mais c'est assez intéressant parce que ça passe à travers Picard, évidemment. Pour c'est qui ça. C'est ça l'humanité? Pour qui l'humanité, c'est la littérature?
Mais par
Data
aussi, en fait.
Oui, par sa quête. Oui, puis Data a ces données-là en plus. Il les connaît, tu sais. Si le premier épisode, ben, Time Zero, où il va justement au 19e siècle, ben, Data, c'est probablement celui qui s'adapte le plus rapidement parce qu'en fait, il a tous ces codes. Il les connaît, ces codes-là. Puis il s'est habitué à s'adapter à n'importe quelle situation de toute façon. Il n'est jamais issu de la situation où il est.
Puis je viens de me rendre, on n'a même pas encore parlé de l'Holodeck. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup utilisé aussi.
C'est vrai, c'est la naissance de l'Holodeck. C'est quand même important, là.
Puis tu sais, Moriarty aurait jamais pu nous envahir au moins 12 fois, sinon.
Moi, là, les épisodes avec Moriarty, je tiens à dire, c'est ceux sur lesquels je dors. Parce que moi, je dors.
Ils sont vraiment moins bons.
Tous les soirs avec une playlist d'épisodes de Next Generation. Puis là, c'est comme mon coming out au monde. Je suis pas capable de dormir si j'écoute pas Next Gen. Puis ils sont dans ma playlist. Measure of a Man est dans ma playlist. Fait que je le connais un peu par cœur, mais comme à un niveau comme inconscient. C'est un peu bizarre. Puis les épisodes avec Data sur le holodeck. C'est un peu. Voilà, point final. Hey! Terminé de parler de mon sommeil!
OK, je vais faire une distraction volontaire très rapidement par rapport à cette idée-là très mystérieuse. Je disais que je voulais vous parler des noms.
Oui.
Ça shakerait un peu l'émission sur le fait que tous les noms ont un apport symbolique dans les téléséries de Star Trek. Roddenberry l'a dit quand même assez souvent. Fait que c'est comme le petit moment où... Est-ce que vous êtes un peu au courant de l'étymologie des noms?
Pas du
non,
tout.
Non.
Ah, ça se fait qu'on va avoir du plaisir avec ça. Est-ce que vous saviez qu'initialement, Jean-Luc Picard s'appelait Julien Picard?
Nice!
Non.
Ah, c'est le meilleur faux français de la télé.
Oh,
vraiment,
merde. Oui, en fait, Gene Roddenberry voulait un acteur français parce qu'il voulait rendre hommage aux explorateurs comme Jacques Cousteau.
Oh,
mais ensuite, il s'est rendu compte qu'il l'appellerait peut-être Luke Puis là, ils ont fait comme, OK, non, faut qu'on fasse bien attention avec Star Wars. C'est pour ça qu'il est devenu Jean-Luc. Le seul dernier hommage qu'il a réussi à faire en tant que francophile, pardonnez-moi, en tant que francophile, c'est de demander à Geneviève Bougeot de jouer la première mouture de Captain Janeway.
C'est pas très bien passé.
Ding, 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 on y va pour William Riker. Initialement, William Riker s'écrivait avec un Y. En fait, William Riker a aussi le T de James Tiberius Kirk, sauf qu'on sait pas si c'est Tiberius des deux bords. LeVar Burton, qui interprète...
Mais c'est quoi le rapport avec le Y?
Ouais, c'est ça.
Ah, oh, c'est juste des affaires à propos des noms.
Il avait un tempérament artistique.
Mais c'est quoi? C'est ça. Je pensais qu'il y avait une étymologie au Riker avec un Y.
Non, c'est juste qu'au début, il s'appelait Riker avec un Y.
On
allait
se
montrer
avec un Y, vous saviez pas?
En même temps, je vois un lien. Ça ressemble un peu à Q, qui ont toujours eu un lien, ces deux-là ensemble, un petit peu.
Ah, OK.
C'est le préféré de... On aurait pu faire un lien.
Ah, pas pire, pas pire. Mais puis, tu as aussi l'affiliation avec le T, avec Kirk, malgré que...
Non, mais je pense que c'est canon qui sont pas comme family related. Là.
Riker puis Kirk?
Ouais.
Ben oui. Parce qu'on sait pas si le T, c'est Tiberius.
Ah, c'est juste
c'est juste qu'ils ont un T.
OK. J'étais comme, mais il me semble qu'ils sont pas related.
Vous voyez quelque chose?
Ça pourrait être Thomas.
Ça pourrait être Thomas, effectivement. Puis là, il pourrait peut-être être related à Batman. Bon, continuons.
Il pourrait.
Jordy LaForge, enfin, le nom de Jordy LaForge est inspiré par George LaForge, qui est un fan quadriplégique, un très, très bon ami de Star Trek. C'est vraiment occupé du fandom. Il est mort en 1975. Il s'appelle George LaForge, et c'est pour ça qu'on a le personnage de Jordy LaForge. Très intéressant ici, parce qu'il y a une inversion par rapport au personnage. Diana Troy, en fait, le nom Diana est le surnom, le surname de Susan Sackett, qui a été l'assistante personnelle et productrice sur beaucoup de les séries de Star Trek. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé. Elle a travaillé 17 ans avec, avec The Great Bird. Ah! Gene Roddenberry.
C'est le nom que tu cherches.
Data, bon, il n'y a pas grand-chose à dire autour de Data, c'est assez évident pourquoi il s'appelle le même. Mais le...
Ah, guys, c'est un robot, spoiler.
Exactement.
Mais j'ai pas compris ça.
Lui-même aurait dû initialement être bleu grisâtre. Puis tout le monde a fait comme, c'est pas super beau. Mais il est inspiré de Questar, qui est un endroit de la télésérie de Questar Tapes de 1974, qui a grandement inspiré... Gene Roddenberry. Continuons avec Will Wheaton, celle-ci est vraiment, vraiment intéressante. Will Wheaton, qui interprète Wesley Crusher. Initialement, c'était Leslie Crusher.
Yes.
Gene Roddenberry a changé à la dernière minute et au final, s'est retrouvé à avoir quelque chose qui était... son double. En fait, tout le monde a l'impression que Gene Roddenberry s'est basé sur lui-même pour faire Kirk, mais il a déclaré, en fait, je cite, « Kirk came out of an earlier time in my age when I was pretending to be part of my macho southern background. » Donc, il avait comme cette espèce de propension dans sa jeunesse à agir un peu comme Kirk. Quand il a décidé de se débarrasser de ça, il a créé le personnage de Wesley parce qu'il se disait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup trop de personnages féminins adolescents et qu'il n'y en avait pas assez de masculins. Fait que Wesley Crusher peut toujours être vu comme le double de Gene Roddenberry.
Fait que c'est pour ça qu'il était toujours sur le bridge, même s'il n'y avait pas d'affaires là.
Ouais, exactement, exactement. Denise Crosby, qui est la petite fille de Bing Crosby, on va s'entendre. Oui. C'était son grand-papa. Elle joue Natasha Yar, en fait, à l'audition. Marina Sirtis était venue auditionner pour jouer le rôle de la Lieutenant Chief of Security parce que, initialement, le nom du personnage était Macha Hernandez. Donc, une inspiration directe, puis c'est plate que Megan ne soit pas là, de Vasquez, interprétée par Jeanette Goldstein dans la série The Alien. Donc, il avait trouvé Vasquez tellement cool que la chef de la sécurité était latino-américaine. Et Marina Sirtis était venue auditionner, mais ça n'a pas fonctionné. Ils lui ont donné Diana Troy et ils ont engagé Denise Crosby qui, elle, avait auditionné pour jouer Diana Troy. Excusez, ça va commencer à être bizarre. Parce que Diana Troy était supposée plus islandique. Elle faisait plus grande, statuesque et blonde. Ils ont inversé ça à la dernière minute et ils ont changé pour Natasha Yar. Dernière et non la moindre, Whoopi Goldberg. On connaît toute l'histoire de pourquoi est-ce qu'elle voulait jouer dans Next Gen. Étrangement, la première prononciation du nom, c'est pas Guigan, c'est Gaynon. Donc, il fallait qu'on dise Gaynon. Mais là, en même temps, je pense qu'il y a eu confusion dans l'idée qu'on voulait pas continuellement l'appeler sœur homosexuelle. Une inspiration extrêmement intéressante, en fait. Le nom Gaynon vient de Mary Louise Cecilia, Texas, en parenthèse, Gaynon, qui était une actrice des années, en fait, du début du siècle américain, qui, suite à un scandale à propos d'un produit à perte de poids, s'est immédiatement reconverti en étant tenancière de Speakeasy et a pris le titre de, et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la même, c'est « The Queen of the Nightclubs ». Donc, Roddenberry a voulu hommager cette grande pionnière entrepreneur du début du siècle aux États-Unis en prenant la barmaid, qui était, ben pas la barmaid, même vraiment la tenancière du...
Ten Forward.
Merci. J'avais Ten Forward, c'est ça, OK. J'avais 10-4 dans la tête, mais c'est un autre moment. En l'hommageant, et c'est très bien décrit dans le scénario de sa première apparition, que c'est la plus belle femme que tout le monde a vue. Donc, le personnage de Guinan est à la fois inspiré de ce personnage centenaire et aussi supposé, ben, est la plus belle femme du monde, telle qu'on conçoit Whoopi Goldberg.
Wow.
Donc, voilà pour tous les personnages. Ça me tentait de vous apprendre quelque chose aujourd'hui.
C'est vraiment cool. Ben, la dernière anecdote sur Guinan est vraiment comme touchante.
Oui.
C'est elle, au fond, la dépositrice de l'humanité de Picard.
Absolument. Vraiment. Je veux dire, on écoutait, encore une fois, on écoutait l'épisode sur Locutus of Borg. Peut-être qu'on va pouvoir parler un petit peu des Borg puis Locutus of Borg, puis c'est quand même intéressant dans toute histoire-là. En fait, je pense qu'on devrait parler des traumatismes de Picard. Mais, pauvre enfant, il en a vécu des affaires. Mais oui, donc, dans l'épisode où, c'est ça, Riker prend les commandes. Je parle comme anglais et français en même temps dans ma tête en ce moment, c'est un peu bizarre. Quand Riker prend les commandes et se ramasse dans le bureau du capitaine, et là, Guinan rentre puis il dit, en gros, tu sais, moi, je suis habituée d'avoir l'oreille d'un capitaine, fait que je vais venir t'énerver un peu avec ça, mais... Puis c'est elle qui, un peu, le guide, puis lui donne les outils dont il a besoin pour faire sa job, parce que, clairement, il est un petit peu perdu, les événements étant ce qu'ils sont. Mais Guinan est vraiment celle qui, je pense... aiguille les membres de l'équipage et surtout Jean-Luc Picard. Je pense que sans elle, Jean-Luc Picard aurait pas été un super bon capitaine. Il aurait fait des erreurs relativement fatales une couple de fois. Pour moi, c'est quand même un des personnages les plus importants de Next Gen. Je sais pas si
vous le plus cool en tout cas, là, c'est vraiment est absolument génial.
Il y a un côté un peu, je trouve, DS au sens de côté positif de Q qui serait bénéfique de Q, c'est-à-dire que Q essaie de leur mettre toujours des bâtons dans les roues pour les tester, alors que Guinan les guide, et puis elle a une connaissance comme Q ou presque au-dessus de tout en fait. T'sais, quand le premier épisode où ils rencontrent les Borg. Ben, c'est elle qui connaît les Borg alors qu'ils sont à l'autre bout de l'univers. Personne n'en a jamais entendu parler ou presque. Mais elle a déjà toute cette connaissance-là, cette connaissance historique-là, évidemment, parce que à cause de son âge. Mais ça en fait quelque chose de ça fait d'elle quelque chose de plus qu'humain quand même, qui transcende l'humanité. Puis
j'ai l'impression que au contraire de Q qui est un personnage qui est omniscient et omnipotent, mais surtout omnipotent parce que tout ce qu'il fait c'est faire des choses. Guinan est vraiment le pendant omniscient sans être omnipotent. Donc elle va apporter de l'information sans jamais agir directement sur les personnages. Même quand elle apporte de l'information, c'est toujours sous forme de en passant. Moi, quand j'ai vécu tel truc, il s'est passé telle chose, puis elle laisse les humains tirer leurs propres conclusions aux yeux de toujours être en train de comme les piquer, tu sais.
Mais je trouve ça très vrai pour Guinan, mais je suis pas sûr pour Q, parce qu'il y a des épisodes comme Tapestry, que je sais pas si vous vous rappelez, c'est celui où le cœur artificiel de Picard a lâché, puis Q, il donne l'opportunité de retourner dans le temps pour changer ce qui s'est fait, c'était une bataille dans un bar, et pas finalement être provocateur et pas se faire blesser, pour y montrer que finalement, ça qui avait toujours été un grand fardeau pour lui, comme une déception d'avoir, de laisser aller, d'avoir été arrogant et tout, était une bonne action. Donc au fil du moment, il y a beaucoup d'épreuves comme ça, on se rend compte que Q mais dans les personnages juste pour qu'ils apprennent d'eux-mêmes et qu'ils deviennent meilleurs.
Oui, mais c'est par l'action quand même.
C'est par l'action.
Oui, mais il est quand même omniscient pour faire ces actions-là, pour prévoir tout ça. Il sait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, non, oui, mais il est omniscient. Là, je ne remets pas ça en question. Là. Je veux dire, clairement, il est omniscient. Mais il se sert surtout de son pouvoir d'action.
Oui,
parce plutôt que... de son pouvoir de savoir. T'sais, ce qu'il essaie de provoquer, c'est... des actions par des actions et non pas des réflexions par son savoir. Je sais pas si ça éclaire un peu plus.
Moi, j'avais l'impression que c'était un peu les deux. Puis pour moi, Q, c'était une figure de jester qui est assez relativement bien établie. Puis en fait, oui, il est plus dans l'omnipotence parce que quand il vient parler avec les personnages, c'est pour les mélanger puis pour les remettre en question. Puis il fait ça de manière très violente puis très cynique. c'est pas gagnant, il n'est pas là pour inspirer des réflexions qui vont éventuellement être bénéfiques, il est là pour confronter les gens.
Mm-hmm. Il n'est pas agréable, en tout cas, ça c'est certain. Il n'est pas agréable. Gunas, c'est comme une douce couverture. À chaque fois qu'on entend parler, c'est juste agréable, c'est doux.
Oui.
On aurait le goût de s'endormir sur ça.
Q, c'est le doute dans une période de questions, dans un colloque qui n'a pas une question, c'est un commentaire.
Oui.
Qui va juste sortir comme tous les auteurs de sa discipline que tu n'as jamais lu. Mais comme...
qui, par ailleurs, le lendemain, tu vas lire l'auteur puis ça va être
ça
une révélation.
Ça
n'a pas rapport. Je pense que quand même, il fait progresser, effectivement. C'est pas pour rien qu'il a été dans le premier épisode.
Puis Guinan, c'est la personne qui te pose une question qui était exactement la chose que tu voulais dire, mais que t'avais pas le temps dans ton 20 minutes.
Ouais.
Puis qui te permet de comme finir ton explication.
Ouais. Mais qui te challenge pas assez pour te faire changer par ailleurs.
Peut-être. Non, elle fait juste te permettre de te
réaliser toi-même. Ouais. Ouais, ouais.
Mais c'est intéressant, il y a clairement un biais dans ton interprétation et ton affection des personnages, mais je pense
Q, je l'adore.
Moi aussi, Q, je l'adore.
Mais il y a quand même d'autres grandes affections autour ici. Je sais, puis c'est comme une espèce de sixième sens ici, où ce que... Toi, me semble que je pense que juste dans la manière que j'ai parlé de Crusher,
ça... Surprise!
Je me demandais si on s'en rappelait. On a un aimant de Wesley Crusher sur notre frigo, parce que Catherine et moi, on habite ensemble.
Oui. Est-ce que je peux raconter cette anecdote quand même de l'aimant de frigo? Tantôt, je voulais faire l'avocat du diable, mais je voulais pas vraiment trop faire l'avocat du diable. Parce que moi, j'ai écouté Next Gen comme en rediffusion avec mes parents qui... Ouais, tu sais. It's all good. Puis mes parents, ils trippent vraiment beaucoup sur Star Trek, mais particulièrement sur Next Gen. Comme ma mère, j'ai grandi en sachant que son personnage préféré dans toute la fiction ever, c'est Data.
Mm-hmm.
C'est ça, tu sais, c'est comme bon, c'est ça. Et mes parents, il y a une couple d'années, genre je peut-être en 2015, sont allés à Comic-Con, sont allés en cosplay de Kirk puis Spock
qu'on a porté pour l'émission des Amazones.
C'était les costumes de mes parents quand ils sont allés à Comic-Con.
Wow. Mes parents cool.
Mes parents sont écœurants, shout out à mes parents. Et mes parents sont allés en 2015, je pense que c'est parce que William Shatner était là.
Oui.
Je pense vraiment que c'est pour ça qu'il était là. Puis ils m'ont ramené un cadeau qui est un aimant de frigidaire de Wesley Crusher parce qu'ils savent à quel point que j'aime Will Wheaton comme en général en tant que personne et dans d'autres affaires unrelated à Next Gen. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je possède ça, qu'ils me regardent tous les matins quand je prends mon lait pour mettre dans mon café.
Mais c'est tellement la plus belle chose de ma journée en plus quand on regarde Wesley Crusher.
Il est à high level sur le frigo, tu sais.
Oh, ouais.
C'est merveilleux.
On est à peu près à la même grandeur, fait que ça fit.
C'est ça.
Mais Wesley Crusher, en plus, tu sais, même on regarde, je vais-tu le dire encore, qu'on regardait les mêmes épisodes hier.
Ouais, c'est fait ça. On regardait les épisodes hier.
Surprise, on regardait les épisodes de L'Oculus of Borg.
Oh.
Puis, on aime beaucoup Wesley Crusher. Je sais
vraiment.
Que c'est une opinion quand même controversée d'aimer Wesley Crusher. On l'aime beaucoup. Mais on se demande vraiment qu'est-ce qu'il fout sur le bridge. Comme, il y a une situation de crise, un danger que comme l'humanité se fasse effacer, puis c'est lui qui pilote le crise de vaisseau.
Oui.
Non!
Ben,
enlevez-le de là, quelqu'un.
En narration, c'est évident. C'était pour que plus d'enfants aiment, j'imagine, Star Trek, alors qu'il n'y a pas de personnage. Je veux dire, ça va
être
la complète.
Il est manipule dès le début, en fait.
Qui est, oui.
Moi, d'après moi, c'est volontaire de sa part. C'est-à-dire que.
C'est un mastermind manipulator.
Ben, vraiment, parce que dès le premier épisode, il veut absolument aller sur le bridge. Évidemment, sa mère lui dit non, t'as absolument pas le droit d'y aller. Il dit ok, mais je vais rester dans l'ascenseur. La première chose qui arrive, c'est qu'il est sur le bridge, il est assis dans le siège du capitaine.
Ouais.
Puis le capitaine est en train de lui montrer comment le siège marche, puis lui, il est en train de dire ouais, non, mais en fait, ça pourrait mieux marcher de même, tu sais.
C'est vraiment drôle.
C'est
parce que on vient de dire qu'il était là clairement pour que les enfants s'identifient au manique. C'est quoi c'est quoi le terme pour ce genre de
fanboy?
De personnage là, ouais, peu importe.
Oh, c'est un Gary Stu.
Voilà, un Gary Stu.
Mais
il est clairement là pour ça. Mais ça fonctionne tellement que je m'en ai dit, oh mon Dieu, ce serait tellement mon genre de faire ça.
Ben, c'est exactement ça. Moi, quand j'écoutais ça quand j'étais petite, moi, j'aimais Wesley Crusher. C'était comme si j'étais sur l'Enterprise, je serais Wesley Crusher, of course. J'étais un petit enfant.
Mais en plus, c'est le personnage de geek.
En tout cas, c'est
qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la télé à l'époque en particulier.
Oui.
Les enfants, c'était Denis la Menace, là. C'était pas un geek, là. C'était l'enfant qui fout le bordel. C'est certainement pas l'enfant qui était plus génial que tout le monde.
Puis quand il fout le bordel, il y a un procès.
Il fait pas ça à moitié, là.
Non, il est tenu au même standard que les adultes.
Ça, c'est vrai, par contre, c'est vraiment intéressant.
Mm.
En tout cas.
Parce que l'épisode où tout le monde a l'air saoul, en fait, puis c'est lui qui prend le contrôle du vaisseau, mais il est un peu tenu au même standard, puis ça arrive trop aussi, là.
Mm-hmm.
Fait qu'on sent vraiment que...
Waxana.
Mais donc mention spéciale quand même aux chandails de Wesley Crusher qui sont basically mon fashion icon.
Ben oui, vraiment.
Mais
tu sais, dans les exceptions au costume, parce que tout le monde porte l'uniforme, bien sûr, ben c'est ça. Il y a Diana Troy qui porte ses espèces de pantalons de pyjama à pattes. Puis il y a Wesley Crusher qui porte des super beaux tricots.
Et il y a Worf qui a son sage Klingon qu'on ne verra plus jamais.
Oui.
Parce que c'est l'accessoire qu'il a utilisé pendant son audition. Il ne pouvait pas avoir de maquillage, il ne pouvait pas nécessairement. Ça fait que pour illustrer qu'il était Klingon, il a porté ça, puis ils ont fait sold.
Nice.
Intéressant.
Et donc, on continue.
T'es le master des anecdotes.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais Crusher arrive éventuellement avec l'uniforme quand il revient de l'académie. Là, mais c'était vraiment
avant.
Oui, un peu avant.
Il l'a dans la fin de la saison 3. Puis j'étais comme, pourquoi ils ont donné l'uniforme?
C'est avant qu'il parte à l'académie, ça.
Ouais.
Ah, c'est parce qu'il nomme Ensign.
Non, c'est ça, il commence à s'entraîner, il commence à faire son parcours.
Il y a quelque chose vraiment du rite initiatique. OK, il apparaît avec un.
Je pense que c'est Picard qui le nomme Ensign. Puis il donne un uniforme. Je me souviens plus c'est quoi qu'il a fait, mais fait quelque chose, il a sauvé le vaisseau encore.
Tout ça.
Puis il donne un uniforme, puis il nomme Ensign comme. Comment on appelle ça? Des diplômes honorifiques, voilà. C'est comme un Ensign honorifique jusqu'à temps qu'il aille à Starfleet dans la saison. Fin de la saison 4, début de la saison 5.
Oui.
Mais c'est là que je trouve ça quand même drôle. Il a pratiquement fait énormément de trucs. Il y a peut-être juste Data qui a fait plus de trucs que lui dans le vaisseau. Puis on lui donne. OK, ben, on peut te donner le truc dans enceinte. Tu mérites quand même au moins ça.
Ah, c'est ça.
Mais, ouais, mais il est assez insupportable, on va s'entendre là-dessus.
Il est plus insupportable.
Il s'améliore, je trouve. Plus on avance, plus on a une vraie version d'un enfant qui va à l'académie, qui a les responsabilités, qui est plus comme mastermind.
Je veux dire, il y a fucking 13 ans, puis il est sur le bridge du Enterprise. Là, c'est sûr qu'il va se vanter un peu, là.
Ouais,
moi,
c'est sûr, ben oui.
Le but, c'est qu'il énerve Picard. Hein? Mais c'est un peu la même fonction que Q, là, je veux dire. C'est de piquer Picard tout le temps.
C'est ça.
Piquer Picard, c'est
beau. Il y a beaucoup de personnages qui font ça, oui. Mais aussi, la première fois qu'il essaie de rentrer à l'académie, il perd contre... ils sont comme trois, puis il perd quand même. Là, je veux dire, éventuellement, il n'y a pas eu de succès, heureusement.
Puis il y a toute l'affaire à l'académie, ce qui se fait comme recaler d'une année, parce que...
Il y a pas cette... Non, mais l'épisode que tu mentionnes, là, il n'est pas comme meilleur que tout le monde, mais il n'arrête pas de laisser passer tout le monde avant lui, parce qu'il y a un kick sa fille, puis l'autre
extraterrestre. Compte quand il est plus gentil puis il aide quelqu'un qui est en difficulté, ils disent qu'ils vont en tenir compte pour sa valeur humanitaire, mais finalement non, c'est quand même lui qui doit.
Okay.
On est quand même censé être dans une société juste.
Oui, effectivement.
Supposément, on est dans une utopie. Normalement, c'est censé bien fonctionner, normalement.
Mais c'est drôle qu'on compare Wesley Crusher à Data, puis peut-être qu'on devrait parler de Data un peu.
C'est ce que j'essaie de faire.
Oui, on devrait.
Parce que Data est quand même le personnage préféré de la mère de Catherine.
Le mien aussi.
Donc, il faut qu'on en parle.
Absolument. Tout le monde, non?
Oui, le mien est largement aussi.
Et je pense que la personne parfaite pour le faire, c'est Hélène.
Oui.
Oui.
Ben, Data, en fait, c'est un personnage super intéressant qui est, à mon avis, le centre même... d'un point de vue narratif de la série, parce que le but, la seule chose qui progresse vraiment dans la série, c'est Data symboliquement. C'est-à-dire que c'est le seul qui part d'un niveau de qui essaie de prouver quelque chose, qui a une vraie quête, en fait. Ouais. Tous les autres, leur but, c'est de faire leur travail, d'explorer l'univers.
Ils trouvent ça vraiment cool d'être sur le Enterprise, mais c'est...
Ouais, ouais, c'est ça. Alors que lui, il a une vraie quête, qui est la recherche de son humanité, et en même temps, comme Picard va lui dire souvent, puis c'est comme c'est le cas en particulier dans Measure of a Man, où, pour ceux qui ne savent pas, Data, la question de la propriété ou du libre-arbitre de Data est remise en question, parce qu'un cybernéticien veut le démonter, disant qu'il appartient en fait à Starfleet, et puis lui dit non, j'appartiens à personne, j'ai un libre-arbitre, je suis un employé, donc j'ai le droit de refuser qu'on me démonte. Puis le procès va justement montrer, en fait cet épisode-là est un des meilleurs justement parce qu'il montre, c'est un condensé de toute la série, en fait, puis c'est assez paradoxal parce que dans cet épisode-là, où il n'y a pas d'action, justement, où c'est un pur débat autour de la sentience. Puis ce que je trouvais particulièrement intéressant dans cet épisode-là, qui révèle énormément de choses sur la série, mais sur Data en particulier, c'est qu'on reprend le modèle de test de Turing, qui est, fait, la façon de déterminer si une intelligence artificielle est véritablement intelligente. Et puis, on le détourne, parce qu'en fait, on ne demande pas à Data de prouver... qui peut faire semblant d'être intelligent. C'est ça le test de Turing, en gros. C'est une intelligence artificielle est intelligente si elle peut convaincre un humain qu'elle l'est. Et Data, au contraire, c'est pas par en faisant semblant, mais en proposant une réflexion sur ce que c'est même d'être un humain, ce que c'est même la sentience.
Oui, et c'est juste, si tu permets, j'aurais une citation de Q, c'est dans le dernier épisode, et je trouvais ça génial. C'est un des moments où je trouve que Q montre qu'il est quand même un peu du bon côté. élargir votre esprit et vos horizons ouvert à des possibilités que vous n'avez jamais imaginées. C'est l'exploration qui vous attend, pas la cartographie des étoiles, l'étude des nébuleuses, mais de suivre la possibilité inconnue de l'existence. Mmh. Et là, c'est très intéressant parce que les bons épisodes de Star Trek Next Generation, à mon avis, dont ceux avec Data généralement, nous montrent des nouvelles possibilités d'existence dans la mesure où on n'associe pas nécessairement un robot à une forme de vie, à un être vivant. Alors qu'après cet épisode-là, on a plutôt tendance à être très d'accord.
Mais je pense que ce qui est intéressant, spécialement avec cet épisode-là, c'est que, en fait, c'est vrai que le test de Turing est un peu inversé, mais ce que Riker essaie de faire, c'est de prouver que c'est seulement un objet. Ouais. Et ce qui sauve Data à la fin, c'est en fait ses relations avec les autres membres d'équipage. Mm-hmm. C'est le fait qu'il collectionne des trésors, des moments qu'il a chéri avec d'autres membres d'équipage.
Ouais.
La fois où il a été intimate avec Tasha Yar.
Alors que c'était sous l'influence, de toute façon. Mais...
Stuff of fanfiction. Oh, God!
Et aussi, le livre que Picard lui a donné. En fait, c'est ses relations sociales qui plantent le doute.
Mais ce qu'il pose comme question aussi, c'est... OK, on est dans un univers de fiction utopiste où toutes les espèces vivantes sont considérées comme ayant les mêmes droits. Sauf les robots, parce qu'on considère qu'ils sont pas des espèces vivantes. Puis l'argument qui est amené, c'est l'idée de la sentience, qui est une notion qui est très peu utilisée en français, mais qui existe en anglais depuis les animalistes du 18e siècle, et puis donc qui existe depuis très longtemps. Ça nous permet de réfléchir de manière assez intéressante sur qu'est-ce qui devrait avoir des droits, puis il le met d'une manière particulière parce qu'on a l'impression que c'est parfait dans cet univers-là, en fait, que tout le monde a déjà les droits qu'il devrait avoir. Mm-hmm. Puis ces questions-là vont quand même toujours se reposer. Il n'y en a pas de monde parfait sur le plan moral, sur le plan juridique, sur le plan éthique. Puis la sentience, en gros, c'est que personne ne peut nier qu'il est intelligent, personne ne peut nier que c'est une bonne simulation d'un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être sentient? Sentient, entre autres, c'est de ressentir. Puis ça passe surtout par les sens, puis par la façon dont le cerveau, ou en tout cas peu importe, peut traiter ces sens-là, puis donne du sens et traiter à travers la conscience. En gros, c'est comment la conscience traite nos sensations.
Mm-hmm.
Puis en ça, c'est vrai que la sentience de Data, elle est problématique, parce que les êtres vivants ressentent le monde et l'interprètent en fonction de la façon dont leur corps reçoit des signaux, donc comment ils perçoivent le temps, comment ils perçoivent la droite et la gauche, le haut et le bas, tout ça, ça fait partie de ce que c'est d'être humain.
Mm-hmm.
Or, Data peut être débranché puis être rebranché, et puis ça, c'est ce qu'il nous montre justement dans l'épisode, puis ça, en soi, c'est fondamentalement non-humain.
Mm-hmm.
Puis on va voir même l'épisode où Time Zero, où sa tête est coupée, et puis elle est rattachée 500 ans plus tard, donc on a une tête de 500 ans plus vieille que le corps. Puis il va continuer son existence comme si de rien n'était.
Mm-hmm.
Donc, en ça, c'est absolument pas humain. Il y a
Mais c'est justement ça la question de Star Trek.
Ouais.
Est-ce que l'humanité est la seule forme
non, absolument.
De vie? Et ce n'est pas.
Ouais, donc il est sentient, mais sa sentience, elle est très différente de celle des humains.
Il y avait un épisode quand même très intéressant, Unification, saison 5, épisode 7, dans lequel il rencontre Spock. Et c'est très intéressant parce que toute sa vie, Spock a essayé d'éliminer l'émotion pour aller juste vers la raison. Absolument. Et là, t'as l'inversion totale. T'as un être qui a la raison absolue, qui peut faire des milliers d'opérations en même temps, faire une peinture, une symphonie, deux écritures de livres en même temps, mais qui essaie d'aller vers l'émotion autant que possible.
Mais en fait, c'est exactement là que je voulais en venir tantôt quand je disais que la Next Generation, c'était l'inverse presque de la première génération. Mm-hmm. Dans le sens que la première génération, c'est comme trop humain. En fait, il y a un surplus d'humanité dans la première saison. Je veux dire, Kirk est comme trop humain.
Il pourrait être un peu. Il pourrait être un petit peu moins
mais
humain.
Mais Bond aussi, d'une certaine façon. Il est plein d'émotions tout le temps. Il est tout sauf rationnel.
Ouais.
Puis même, on le voit dans le premier épisode, puis il refuse encore d'être télétransporté comme 130 ans plus tard. Puis on a Spock qui lutte contre son humanité. Donc même lui, il se trouve trop humain. Alors que dans Star Trek, on a le contraire, on va commencer plutôt avec des robots, puis on va essayer de leur donner progressivement de l'humanité.
Mm-hmm.
Donc on a exactement le mouvement inverse, donc je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Puis Data s'humanise, oui, mais il découvre aussi ce que c'est d'être autre chose qu'humain. C'est-à-dire que c'est un miroir comme n'importe quel automate, ça c'est un classique dans l'étude des automates dans la fiction. Les automates sont toujours créés pour être un reflet de leur créateur.
Mm-hmm.
Donc pour révéler quelque chose de leur créateur qui n'est pas nécessairement facile à voir.
Clairement.
Je pense que c'est ce que Data permet aussi. Puis c'est sûr que t'as aussi un acteur qui est capable de jouer ce rôle-là, qui est probablement dans les meilleurs de la série. Sont qu'il y a peut-être deux trois acteurs qui sont, à mon avis, au-dessus de la mêlée, mais lui est capable de jouer ces nuances-là, ce qui est très difficile parce que...
Non, mais quand même, callback à l'épisode... Mais c'est pas l'épisode, c'est dans le film, quand il y a finalement l'emotion chip.
Oui. Ah.
Et comme la scène où il chante le Lifetime Lifeform Song, qui est juste la plus belle chose au monde. Mais il y a vraiment un gros clash. On voit l'emotion chip. C'est visuel. On voit le changement. Puis c'est absolument fascinant de voir Brent Spiner à la fois en Q&A, parce que c'est clairement la meilleure personne au monde en Q&A dans les Comic-Con, mais aussi comme acteur pour faire des temps. C'est formidable ce qu'il a pu accomplir. Là.
Et on pourrait quand même dire un mot sur son frère, alors. C'est mieux placé que moi pour le dire. J'imagine que...
En fait, Laure, c'est assez intéressant parce que justement, il est trop humain. C'est-à-dire que c'est une première version. Mais ça, c'est un classique. On voit ça souvent dans les créations de robots, tout ça. Il y a quelque chose de... En fait, c'est dérangeant quand il y a un surplus. C'est-à-dire que c'est impossible de gérer autant d'émotions puis autant de... sans l'expérience. Parce que c'est ça le problème de Laure. C'est-à-dire que Laure naît adulte. On s'attend à ce qu'il y ait qu'il soit capable de gérer des émotions comme un adulte. Mm-hmm. Et puis, ça fonctionne pas du tout. Il se retourne contre la colonie, ça dégénère complètement. C'est pas pour rien, donc, que Data est une deuxième version où il dit, OK, ben, en fait, c'est exactement comme on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On s'est dit, on peut pas programmer une intelligence artificielle. Il faut qu'on lui la laisse apprendre. Donc, c'est ça, au fond, Data. Data, ça montre que si on veut qu'un robot devienne le plus humain possible, ben, il faut le laisser avoir une vie humaine, le laisser avoir les expériences humaines, parce que c'est ça, l'humanité, c'est les expériences.
Pis c'est écrit, c'est intéressant, parce que c'est écrit dans les noms. T'sais, Data, c'est des faits sans histoire, puis Lore, c'est des histoires sans des faits.
Ah ouais. Wow! OK, excusez, j'avais jamais vu ça.
Non plus. Non, mais c'est vraiment intéressant.
Mais c'est vraiment parfait?
Oui. Ouais.
OK. Toi, t'es comme... Sérieusement, là, monsieur anecdote aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Genre impressionnant.
Mais le premier épisode où on voit Lore, en plus, ça s'appelle... C'est Data Lore.
Oui,
mais
exactement.
Pas d'espace, tu sais. C'est vraiment les deux qui forment une unité en soi. Puis,
C'est fascinant, Star Trek. Je trouve ça vraiment cool parce que, comme on parle de Next Generation depuis bientôt une heure, il va falloir terminer l'émission bientôt, même si on a...
Ouais, mais
pas
c'est bon, on
n'a
même pas parlé
plan.
De locutus.
Non, c'est
ça. Tu voulais faire une émission
ça. Sur les Borg. On va vraiment avoir besoin de notre émission sur les Borg au complet, finalement.
Je suis trop heureux.
Mais c'est ça, on en parle depuis presque une heure, puis je découvre encore des choses en vous parlant sur cette série-là. Puis on pousse toujours les réflexions plus loin. Je pense que ce qu'il y a dans Next Gen, c'est beaucoup d'amorce de ces réflexions-là. Ouais. Puis on en parlait, je pense, dans le premier épisode sur Star Trek, sur le fait que Star Trek, fallait qu'on l'écoute un épisode à la fois, fallait qu'on prenne le temps de se questionner, fallait qu'on prenne le temps de parler avec les autres de ce qui se passe là-dedans. Puis tu sais, les discussions sur c'est quoi être humain, c'est quoi la sentience, c'est quoi, tu sais, comment on passe des émotions à la rationalité, c'est des questions qui sont abordées dans la philosophie depuis les débuts de la philosophie. Puis c'est encore des questions qu'on tente d'aborder avec la fiction, avec les personnages comme Picard, un peu probablement de manière involontaire. Mais avec les personnages comme Data, avec Spock, avec le docteur dans Voyager.
Même avec Geordi, c'est-à-dire
avec Geordi,
oui, c'est vrai.
Les premières choses qu'il dit, c'est « je voudrais voir comme un humain », tu sais.
Ah oui.
Ah mon Dieu, c'est triste. Ouais. Mais c'est toutes des questions qui sont là. Puis c'est des questions qu'on continue d'approfondir, tu sais, avec nos connaissances d'autres univers de fiction, avec tes connaissances de la robotique fictionnelle qui me semble fascinante. Tu sais, je sais pas, je trouve ça juste fascinant de parler avec vous de ça.
Nous aussi. C'est génial.
Absolument.
C'est une belle conclusion, ça.
Oui, c'est vrai. On peut pas, on ne peut pas nier toute cette émotion.
Oh. Je suis pas l'émotive, excusez.
On le fera pas alors. On va juste se redonner rendez-vous pour la 5e excursion dans l'univers de Star Trek qui va être plus autour de l'univers des Borg.
Je pense que le plan était de faire Deep Space Nine.
Oui,
mais là, c'est parce qu'on va pas faire Deep Space Nine, puis après ça, on va revenir au Bourne, puis après ça, on va...
Mais ils sont dans le Voyager aussi.
Ouais. Je pensais qu'on allait faire tous les épisodes, les émissions en premier, puis les Borg après, mais on s'organisera, là.
Ça va être mais c'est ça. Après.
Soit les Borg, soit Deep Space Nine.
Ça devrait pas être Borg.
S'il y a d'autres thèmes qui ressortent, on va garder ça pour la
fin. On va faire Deep Space Nine.
OK. On va faire des... Moi, c'est vraiment pas un problème. OK. Donc, merci énormément, Catherine Côté. Merci énormément, Roxane Janeway. Merci, André-Philippe Doré. Merci, Hélène Després. Vous avez été fantastique. C'était très intéressant. Quoi?
Okay.
Personne qui veut sortir. Je...
Ben, on t'a pas remercié, ça.
Non, mais c'est
vraiment merci, genre. J'attendais que quelqu'un le fasse, t'es un peu gêné, mais vraiment merci.
Merci à ton compagnon.
Rien fait, moi. Make it so, OK, tout le monde? Oui. Il fallait dire make it so.
C'était merci à ton compagnon.
Make it so.
Oui. Non. Make it so, guys.
Merci. Bye.